VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par les relations Union européenne-Afrique. La justice européenne a rejeté ce mercredi un recours de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak qui contestait le gel de ses avoirs dans l'Union européenne décidé après la révolution l'ayant renversé en 2011. Ces sanctions de l'Union européenne, qui visent également une vingtaine de proches de l'ancien leader égyptien, avaient été décidées à Bruxelles en mars 2011 sur la base de procédures judiciaires engagées contre les intéressés en Égypte pour des détournements de fonds publics. Dans son arrêt, le tribunal de l'Union européenne établi à Luxembourg rejette le recours et confirme les décisions du Conseil de l'Union européenne de 2017 et 2018 de proroger le gel des avoirs en notant qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une politique de soutien aux autorités égyptiennes fondée notamment sur des objectifs de consolidation et de soutien de la démocratie et de l'état de droit. Hosni Moubarak, arrêté en avril 2011 après avoir été contraint de quitter le pouvoir le 11 février de la même année, a été libéré en mars 2017 après avoir été acquitté pour le meurtre de manifestants anti-dictature. Mais il reste sous le coup d'une enquête égyptienne pour corruption. Élection en Afrique, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et plusieurs leaders de l'opposition nigériane ont signé mardi un pacte pour que les élections de 2019 se tiennent dans un climat pacifique dans le pays. Mais le principal rival du chef de l'État à la présidentielle, Atiku Abubakar, n'était pas présent. Le point avec Morgan Guiriek.
Muhammadu Buhari s'est engagé avec les représentants de dizaines de partis à faire en sorte que les élections générales, prévues en février, soient pacifiques et crédibles. Nous nous engageons à respecter les normes de conduite les plus strictes et encourageons nos sympathisants à en faire autant, a-t-il affirmé lors d'une cérémonie à Abuja. Le texte est quasiment identique à celui signé avant les élections de 2015, mais Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, ne s'est pas joint à l'accord. Aussi, deux autres figures respectées, comme Donald Duke, ancien gouverneur de l'État de Cross River, et Obi Ezekwesili, ancien ministre de l'Éducation, n'ont pas apposé leur signature. Le président du Comité national pour la paix, Abdul Salami Abubakar, a affirmé que personne n'a été écarté car selon lui, l'accord devait être signé par tous les partis. Au Nigeria, les tensions ethniques et religieuses ont souvent alimenté des violences électorales. En 2011, environ 1000 personnes ont été tuées après la défaite de Buhari face à Goodluck Jonathan.
Élection RDC maintenant, accès de violence dans la campagne électorale en cours. À 11 jours des scrutins du 23 décembre, des incidents ont été signalés mardi à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga dans le sud-est du pays. Martin Fayoulou, le candidat de la coalition d'opposition de la Muka, a vu son cortège dispersé par les forces de sécurité qui ont fait usage de balles et de gaz lacrymogènes. Il n'a pas pu tenir son meeting sur place. Ses principaux concurrents, côté opposition, Félix Tshisekedi, et du côté du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, ont quant à eux battu campagne dans l'Est et le Nord-Est. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Si vous votez pour le candidat numéro 13, c'est la continuité que vous allez vivre, c'est-à-dire la souffrance, le chômage et l'insécurité, a lancé Félix Tshisekedi devant des milliers de personnes réunies mardi à la place de la Poste à Kisangani pour suivre son meeting. Le ticket cap pour le changement a par ailleurs promis aux Boyomés, s'ils élisent Félix Tshisekedi, la gratuité des soins de santé ainsi que la création d'emplois pour les jeunes. Beni et Boutembo sont leurs prochaines étapes. Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, était pendant ce temps à Issy dans la province du Haut-Touélé, au nord-est du pays. Mon programme, c'est pour développer ce pays et en particulier cette province. Nous allons relier Issiro à toutes les grandes villes de l'ex-province orientale. La paix, la sécurité, la construction des barrages hydrauliques seront également nos priorités, a-t-il dit aux habitants de Issiro pour solliciter leur voix le 23 décembre prochain. La coalition Lamuka, quant à elle, a, après la dispersion par les forces de l'ordre du cortège de son candidat et l'annulation de son meeting à Lubumbashi, publié un communiqué dans la soirée dans lequel il félicite la population pour sa mobilisation en faveur de son candidat partout où il a pu tenir son meeting, charger le pouvoir de Joseph Kabila et appeler les Congolais à se mobiliser, je cite, « dans le calme, la sérénité et la non-violence » pour l'élection désormais certaine de son candidat, Martin Fayulu Madidi. Fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République centrafricaine, la situation humanitaire se dégrade de plus en plus après les récentes violences dans le pays. Les ONG internationales dénoncent les difficultés que rencontrent les humanitaires pour apporter de l'aide aux populations affectées. De Bangui, le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Les violences orchestrées par les groupes armés en novembre et début décembre 2018 dans certaines régions de la République centrafricaine ont contribué à la détérioration de la situation humanitaire dans les localités de Batangafo, Alindao et Ipi. On dénombre des dizaines de milliers de déplacés internes, des milliers de maisons incendiées et des milliers de personnes dans le besoin d'aide humanitaire d'urgence. Actuellement à Alindao et Ipi, les personnes affectées n'ont reçu aucune assistance faute de couloirs humanitaires du fait des activités des hommes armés. Baptiste Ankar, coordonnateur du CCO, Comité de coordination des organisations non gouvernementales internationales.
Nous, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est laisser les humanitaires travailler entièrement. Faites savoir quand effectivement vous n'êtes pas satisfait, mais respectez strictement les principes humanitaires, garantissez l'accès aux populations vulnérables et dans le besoin, quelle qu'elle soit.
Face à cette situation, l'association des victimes et déplacés de la base Koto, l'une des préfectures durement affectées, dénonce les graves violation des droits humains. Son coordonnateur Enoch Fortuné Binguidé interpelle le gouvernement et la MINUSCA.
Vous allez comprendre que depuis 2015, les enfants qui sont nés n'ont pas d'acte de naissance. Il n'y a pas de libre circulation. Vous voyez que depuis mai 2017, plus de 500 femmes et hommes ont été violés récemment à Lindao. Beaucoup de maisons et des écoles ont été détruites.
À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre, les organisations de défense des droits humains ont alerté les autorités sur la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Centrafrique. Maître Mathias Barthélémy Moruba est président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme.
La MINUSCA a un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce mandat robuste lui donne la possibilité de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui vont se mettre en marge de la loi. Or, ici, on a constaté qu'en présence de la MINUSCA, les populations civiles sont massacrées. La population est abandonnée. Alors, on ne comprend pas quel est finalement le rôle que joue la MINUSCA aujourd'hui en République centrafricaine. Nous sommes vraiment inquiets. Là, on meurt. Ils ne sont pas là, on meurt.
Selon les Nations Unies, malgré la générosité des donateurs, le plan de réponse humanitaire 2018 pour la République centrafricaine d'un montant de 516,6 millions de dollars n'a été financé qu'à hauteur de 240,6 millions, a indiqué l'ONU. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Rwanda, le procureur général du Rwanda, Jean Bosco Mutangana, a annoncé ce mercredi qu'il allait faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposant Diane Rwigara et de ses 4 co-accusés pour incitation à l'insurrection. L'accusation n'est pas satisfaite du jugement et nous avons décidé d'interjeter appel dans les prochains jours, a déclaré M. Mutangana lors d'une conférence de presse. Et pour terminer, l'actualité ici aux États-Unis, scène incroyable dans le bureau ovale. À la Maison Blanche, à Washington, le mur à la frontière avec le Mexique promis par le président Donald Trump a donné lieu hier à des échanges très tendus entre le président Trump et les leaders des démocrates au Congrès. Compte rendu d'Irénée Herman Umbo.
Menaçant d'aller jusqu'au shutdown, paralysie de certaines administrations si les démocrates refusent de voter le financement du mur, le président Donald Trump a indiqué que la sécurité aux frontières devait être une priorité absolue. C'est un sujet difficile, nous n'aurons probablement pas d'accord, a martelé M. Trump dans une ambiance très tendue. Je ne pense pas que nous devrions avoir un débat devant les journalistes, a rétorqué Nancy Pelosi, qui devrait prendre la présidence de la Chambre des représentants en janvier. Les Américains pensent que le gouvernement doit rester ouvert, a-t-elle insisté. Les élections ont des conséquences. Monsieur le Président a lancé de son côté Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat. La rencontre marque le début d'âpres tractations sur la loi budgétaire qui doit être adoptée d'ici le 21 décembre. Un échec des négociations peut entraîner une paralysie partielle de certaines administrations. Les démocrates proposent de débloquer une enveloppe de 1,6 milliard de dollars pour la sécurité aux frontières, mais ont été clairs, pas question d'utiliser ces fonds pour financer le mur, une promesse de campagne de Donald Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.